Une des premières choses qu'on apprend quand on fait du secourisme, ça n'est pas ce qu'il faut faire, mais ce qu'il ne faut surtout pas faire. Éviter le geste qui tue, dit-on. Et je crois que dans le domaine des conflits, on peut aussi commencer de la même façon. Et je commencerai par un texte biblique, c'est au chapitre 7 de Matthieu, le premier verset, cette parole de Jésus, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés ». Dans les textes que nous avons étudiés, je pense en particulier au chapitre 6 des Actes, le conflit à propos des veuves des hellénistes, au chapitre 11 de la première aux Corinthiens, le comportement absolument aberrant de certains chrétiens au moment de la Sainte Cène, les apôtres ne cherchent pas à faire un procès pour voir exactement qui est responsable de l'affaire. Ils ne cherchent pas à trouver un coupable pour que les autres soient libérés de toute culpabilité. Le procès ne règle pas le conflit. Le fait de vouloir à tout prix savoir qui est coupable, à quel moment les choses ont déraillé, de vouloir établir une procédure, une enquête, risque parfois d'aggraver le problème parce que nous ne sommes pas toujours en mesure de donner une explication à nos conflits. Il y a des raisons qui peuvent apparaître, mais il y a souvent des raisons infiniment plus profondes qui ne peuvent être comprises que si on connaissait vraiment l'histoire de chacun, la situation dans laquelle il a vécu, pourquoi il a réagi de cette façon-là qui ne nous paraît pas normale. Ça peut remonter très loin sans être un psychologue freudien et faire de la psychanalyse, où on remonterait à la petite enfance. Il y a toujours dans la vie des autres des choses qui nous échappent. Et vouloir établir une sorte de procès, voyez-vous, c'est courir le risque de vouloir entrer dans le domaine secret des autres, de les violer en quelque sorte. Et puis, je crois que le plus souvent, une explication n'épuise pas les causes d'un conflit. C'est souvent très complexe. Je pense ici à ce que disait un éducateur dans un livre tout à fait admirable à propos des enfants, qui a été réédité, qui s'appelle « Graines de crapules », disait leurs petites histoires entre eux. La vérité est au fond du puits, oui, mais la corde pour la tirer est si longue, que quand elle arrive à la surface, tu es beaucoup trop loin pour la voir. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est aussi vrai en ce qui concerne les bagarres, par exemple, dans des écoles. Ça a été étudié par des psychologues qui ont filmé, enregistré, interrogé les gosses, dans les écoles de garçons surtout, parce que dans les écoles de garçons, les bagarres sont beaucoup plus visibles et de surface que dans les écoles de filles, paraît-il. Mais chaque fois, ils se sont aperçus qu'il fallait remonter très très loin avant d'arriver à la cause de la bagarre. Ça commençait de façon anodine, mais l'un se sentait agressé. Par exemple, des gosses jouent aux billes, il y en a un qui passe en courant, qui dérange une bille. Un mot vif. Un mot encore plus vif. Si tu me parles comme ça, gare à toi. Vas-y, je te crains pas. Et puis on commence par se cogner sur la figure. C'est très compliqué, mais tout du long, chacun est persuadé que c'est l'autre l'agresseur. Et alors, on peut perdre un temps fou à essayer de connaître le pourquoi de la chose. Il y a des moments où il faut accepter de ne pas savoir. Il faut accepter de ne pas être le maître du jeu. Et accepter surtout, et c'est aussi ce que nous dit Jésus dans ce texte, ne jugez pas, que ça n'est pas à nous de nous poser en juge des autres, surtout si nous sommes impliqués dans le conflit. Et en réalité, dans toute situation humaine, il y a des affrontements. Nous sommes toujours impliqués. Et c'est généralement quand on est impliqué qu'on veut se poser en juge. Mais ça fausse tout, immédiatement, parce que nous sommes à la fois juge et partie, ce qui est une des choses qui peut disqualifier la justice humaine et toute justice. Il ne faut pas se poser en juge parce que, d'abord, notre jugement bloque souvent les choses. Quand je juge quelqu'un, je lui mets une étiquette. Et par cette étiquette, je le fige. Il est comme ça, il ne peut pas être autrement, il n'y a rien à en attendre. Et la situation est bloquée parce que je n'espère plus rien de son côté. Mais lui, qui est considéré comme coupable par mon jugement, il ne peut faire autrement que de se défendre, essayer de se justifier. Or, vouloir se justifier dans une situation de conflit, et c'est particulièrement vrai du conflit entre Dieu et nous, l'apôtre Paul, au début de l'épître aux Romains, passe presque 3 chapitres à convaincre les chrétiens comme les juifs qui perdent leur temps à se justifier et qui n'ont qu'une chose à faire, se remettre à la justice de Dieu pour être justifiés. Mais à partir du moment où nous cherchons à nous justifier, c'est fichu. Il n'y a pas de solution possible. Or, le jugement oblige pratiquement l'autre à se défendre, à se justifier. Et surtout, le jugement que je porte sur autrui me justifie à mes propres yeux. Quand je juge quelqu'un, c'est souvent pour me disculper. Si c'est l'autre qui est coupable, c'est pas moi. Hein, c'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur, comme on chantait autrefois. Voyez-vous ? Il faut que ce soit l'autre parce que ça me disculpe. C'est l'histoire du pharisien et du publicain dans la parabole de Luc 18. Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. S'il n'y avait pas le repoussoir à côté, je ne serais peut-être pas tellement content de moi. Mais comme il y a l'autre à côté qui est coupable, moi je suis innocent, forcément. Et là encore, si je me dis innocent en culpabilisant l'autre, je ferme la porte à une solution du conflit. Par contre, ce que nous demande le Seigneur, c'est d'accepter son jugement, mais son jugement sur moi d'abord. Je prends un exemple, c'est quand la mère des fils de Zébédée vient trouver Jésus pour demander que ses fils séparent au pouvoir, les premières places dans le royaume de Dieu. Et les autres disciples, nous dit l'Évangile, se mettent à râler. Pourquoi se mettent-ils à râler? Parce qu'ils pensent que ça pourrait aussi bien leur venir, ce poste-là, qu'aux autres. Hein. Mais Jésus ne brandit pas Jacques et Jean comme coupables. Il se tourne vers tous. Et à tous, il dit, voilà ce qui se passe dans le monde. Ceux qui détiennent le pouvoir en abusent. Littéralement, le texte dit, font peser, font sentir leur pouvoir sur les autres ou leur autorité. Il n'en sera pas de même parmi vous tous. Ce n'est pas Jacques et Jean qui sont coupables. C'est vous tous qui êtes animés du désir de possession des autres et du désir de domination. Et c'est dans la mesure où chacun d'entre nous accepte ce jugement qu'il y a une solution qui peut être trouvée. Il faut que nous nous laissions impliquer. Je pense à un conflit récent entre deux frères que je connais, où l'un venant me trouver me dit « Il n'y a pas de problème X et Y, il n'y a qu'un problème X. X, c'est l'autre, bien entendu. Hein » Quand on tient ce langage-là, il n'y a pas de solution possible. Il faut que nous nous laissions juger, que nous nous laissions remettre en question et impliquer par le Seigneur. Et une des façons par lesquelles cela peut se produire, c'est que nous acceptions l'arbitrage d'une tierce personne qui n'est pas directement impliquée. C'est ce qu'on a vu, par exemple, au chapitre 15 des Actes, dans l'histoire du conflit entre Paul et les judaïsants. Ils ont accepté de se rendre à Jérusalem pour que l'église de Jérusalem, Jacques et Pierre, soient en quelque sorte arbitres du conflit. Le jugement de Dieu ne nous vient pas forcément directement par révélation, ni même uniquement par la lecture de la Bible. Il nous vient aussi par l'écoute des frères. C'est un acte d'humilité, mais sans lequel on ne sort pas des situations de conflit. C'est la première chose que je voulais dire. Ne jugez pas, ne pas croire que la solution passe par un jugement en bonne et due forme qui condamnera forcément l'adversaire, puisque c'est nous qui avons raison par définition. Une deuxième étape importante, me semble-t-il, c'est une sorte de tension, de dialectique, si vous voulez, nécessaire. Il faut à la fois accepter et refuser le conflit. C'est pas simplement pour jongler avec les mots que je dis ça. C'est parce que il doit y avoir un double mouvement. Accepter le conflit, ça veut dire ne pas se complaire dans un idéalisme en disant « quand on est chrétien, on n'a pas de conflit. Nous sommes tous frères. La multitude de ceux qui ont cru, doivent toujours n'être qu'un cœur et qu'une âme. » Puis on a vu qu'ensuite, ce n'était pas toujours vrai. Prétendre vivre à l'abri du conflit, comme si la paix, la parfaite entente avec les autres, était un droit absolu. un dû en quelque sorte. Les autres me doivent la paix. J'ai droit à l'absence de conflit. Ça, c'est d'un idéalisme totalement aberrant. C'est ce que je vous disais hier, hein. Nous sommes dans un monde de conflit, nous sommes nous-mêmes des êtres de conflit, et c'est pas possible autrement. Il faut accepter le conflit, c'est-à-dire ni le fuir, comme l'autruche qui met sa tête dans le sable et qui prétend ne pas voir la réalité, ni essayer de le résoudre par le simple maintien du statu quo ou des apparences, comme certains couples qui ne peuvent plus s'entendre mais qui restent unis à cause des apparences. Il faut avoir le courage d'affronter le conflit. L'accepter, non pas comme une chose catastrophique, exceptionnelle, ça ne devrait jamais m'arriver à moi, pauvre de moi, mais comme faisant partie d'une vie qui est faite de déséquilibre et de reprise d'équilibre, qui n'est pas faite d'immobilité. Accepter le conflit, accepter que ce ne soit pas quelque chose d'absolument inimaginable et scandaleux et injuste à mon égard, c'est aussi nécessaire pour ne pas le dramatiser outre mesure. Il m'arrive de donner aussi à des étudiants, enfin des futurs pasteurs, des cours de théologie pratique, et c'est une des choses que je leur dis et leur répète: votre tâche de pasteur est de dédramatiser les conflits. Les gens dramatisent toujours leurs conflits parce qu'ils sont impliqués. Vous devez les aider à dédramatiser, à accepter le conflit, à accepter que celui avec qui vous êtes en conflit n'est pas forcément un ennemi rayé de l'existence. Et c'est pourquoi, parmi les exhortations du Nouveau Testament, vous avez des phrases comme « supportez-vous les uns les autres ». Supporter quelqu'un, c'est admettre qu'il est difficile à supporter. Il n'y aurait pas besoin de le dire sans ça. Autrement dit, c'est admettre qu'on est en situation de conflit avec lui. Ou bien encore, Paul recommande souvent la patience. La patience, c'est aussi la même chose. Elle n'est nécessaire que parce qu'il y a tension. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas besoin de patience. Quand on est heureux, ça n'éprouve pas notre patience, loin de là. Au contraire, on voudrait que ça dure plus longtemps. Le conflit est désagréable et gênant. Et c'est pourquoi il y a besoin de patience. Mais ce n'est pas simplement une résignation, c'est quelque chose de beaucoup plus. C'est la reconnaissance aussi que le conflit peut être utile et formateur, à condition de ne pas s'y enliser, à condition d'en sortir. C'est aussi dans ce sens qu'il faut accepter le conflit comme un moyen de progresser. Toute progression, nous le verrons dans un instant, ne se fait que par rupture d'un équilibre et accession à une autre forme d'équilibre qui nous permet d'avancer. Donc il faut d'une certaine façon accepter le conflit, mais d'un autre côté il faut aussi le refuser, c'est-à-dire ne pas en prendre son parti, ne pas se satisfaire d'une situation d'injustice. Dans la Bible, la justice, c'est quelque chose de dynamique. C'est l'acte par lequel on rétablit une justice qui a été brisée, une relation qui a été cassée. C'est toujours un acte de réparation, de rétablissement. Et c'est pourquoi l'Évangile nous annonce la justice de Dieu qui rétablit la juste relation entre nous et Dieu. Il est donc important que nous ne prenions pas notre parti de la justice. Le consentement à l'injustice, c'est pas ça qui réglera le conflit. Et ça, c'est aussi une tentation de lâcheté, je dirais, devant les conflits, de dire, eh bien, tant pis, on va s'accommoder, on va se résigner à ce qui ne va pas. La cause des conflits est toujours fondamentalement dans le péché humain, mais qu'il y a toutes sortes de circonstances qui y contribuent, circonstances aggravantes, par exemple. Et parmi ces circonstances, il y a des injustices dans le monde. Il y a des choses qui ne sont pas comme elles devraient être et qui favorisent des conflits, par exemple l'exploitation des uns par les autres. Mais en tant que chrétien, pour avoir la paix, on ne doit pas fermer les yeux sur les circonstances extérieures des conflits. Nous devons être prêts à les affronter. Nous devons être prêts, quelquefois, peut-être même à être des créateurs de conflits pour mettre fin à une injustice. Et ceci, c'est peut-être créer un certain conflit ouvert pour refuser un conflit latent devant lequel chacun se rendait aveugle et refusait de voir l'injustice. Aimer, hein, ce n'est pas rester collé l'un à l'autre dans la béatitude. Aimer, c'est toujours revenir vers celui dont quelque chose nous sépare. Hein, l'amour est une force de réconciliation, une force qui réunit ceux qui étaient séparés, a dit un théologien. Il faut toujours donc accepter la réalité du conflit comme faisant partie de notre vie et lutter pour la réconciliation. C'est à cela que nous sommes appelés. L'exemple type, c'est le pardon. Le vrai pardon ne consiste pas à fermer les yeux sur la faute de l'autre. Ça n'est pas l'indulgence du bon papa gâteau. Le vrai pardon, c'est un acte de réconciliation. Pardonner, c'est donner par-dessus, c'est-à-dire donner à l'autre ce à quoi il n'aurait pas le droit selon ses mérites. Mais renouer avec lui, donc, une relation d'amitié. C'est un acte extrêmement positif et coûteux, d'ailleurs. C'est le propre de l'amour. C'est vrai que dans tous les cas, la solution d'un conflit n'est possible que par l'amour. Mais alors, il faut être un peu plus précis que cela, hein. Et il faut surtout dire ceci, me semble-t-il, c'est que l'amour, ça n'est pas simplement un quelque chose à ajouter à notre vie, à notre façon de faire, sans modifier le reste. Comme par exemple, le fait d'apprendre à conduire ajoute quelque chose à ma vie, mais le reste continue exactement de la même façon. L'amour est un changement radical de toute notre façon de vivre et de voir. C'est un changement d'orientation, un changement de mentalité. Et ce mot de changement de mentalité me paraît être la traduction française la meilleure du terme biblique qu'on traduit habituellement par repentance. Et j'en arrive à la troisième étape, au troisième volet, si vous voulez. Il n'y a pas de solution de conflit sans repentance. Mais je voudrais là encore repréciser ce qu'est la repentance pour la Bible. Ce n'est pas le fait de regretter, de confesser une faute et de demander pardon pour cette faute-là. La repentance ne se situe pas simplement sur le plan moral. C'est aussi sur ce plan-là, mais c'est beaucoup plus profond que cela. La repentance, c'est changer sa façon de voir, sa façon de penser, sa façon d'agir. Ça implique un retournement de notre être. On a cité ce texte où l'apôtre Paul demande qu'on se dépouille du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. C'est ça la repentance. Le vieil homme, c'est celui qui a une certaine façon de voir, qui considère par exemple que son point de vue doit l'emporter, que son intérêt est la chose fondamentale, que son confort est un droit absolu. Il faut renoncer à une certaine façon de voir, de penser, qui nous met au premier rang, pour revêtir une autre façon de voir. Et c'est toujours coûteux. C'est une véritable mort et résurrection. Il y a une parole du poète Peggy, là, que j'aime beaucoup. Peggy disait « Rien de ce qui est spirituel ne pousse comme les pommes de terre. Mais tout croît par mort et résurrection successives. » La repentance, c'est cette mort et résurrection-là, qui implique que nous acceptons que le Seigneur nous remette radicalement en question, remette en question notre façon de voir et nous oblige à changer l'orientation de notre existence, à changer notre regard. Le Nouveau Testament, en particulier les Évangiles, Jésus, attache beaucoup d'importance au regard. Hein, si ton œil te fait tomber dans le péché, jette-le, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est une façon drôlement dure de dire les choses. Mais ça signifie change radicalement de regard. Vois les choses autrement. Apprends à les voir comme moi. Et quand on lit l'Évangile, il me semble que l'enseignement de Jésus à ses disciples, c'est tout au long et de manière concrète, dans la pratique, à partir de choses réelles, hein, pas dans l'abstrait, dans les nuages. Il leur apprend à changer leur façon de voir et de penser. Si vous voulez bien, on va prendre trois exemples qui se suivent dans l'Évangile de Luc au chapitre 9. Et c'est frappant de voir que Luc nous a rapporté ces trois exemples, l'un après l'autre. Luc 9, verset 46 d'abord. Une discussion survint entre eux, entre les disciples, hein, pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Jésus, qui connaissait la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Ceci nous rappelle l'autre texte où les fils de Zébédée demandent la première place et où Jésus dit « Oui, dans le monde, voilà comment ça se passe. Les chefs abusent de leur pouvoir. Il n'en sera pas de même parmi vous. Celui qui veut être le plus grand, qu'il se fasse le serviteur de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup d'hommes. » Jésus ici donc les amène à changer leur manière de voir. Vous n'êtes pas là pour dominer. Le sens de votre vie n'est pas d'être le plus grand. Le sens de votre vie, c'est d'accepter dans l'humilité d'être le serviteur des autres. Il n'y a pas de retournement plus grand que celui-là dans notre existence. Accepter de passer de la domination au service, c'est la chose la plus difficile et la plus révolutionnaire d'une existence humaine. C'est à ça que Jésus nous appelle. Ça, c'est une vraie repentance, un vrai changement de mentalité. Mais sans ce changement de mentalité, on ne sortira jamais de nos conflits. Deuxième texte, versets 49 à 50. Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Jésus lui dit, « Ne l'en empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » On a parlé de l'esprit de clan, de l'esprit de parti. Là, vous en avez une belle manifestation. Il chasse des démons en ton nom, il fait du bien, donc. Ah oui, mais il ne nous suit pas. Il est donc d'un autre clan, d'une autre chapelle, d'une autre église, d'une autre tout ce que vous voulez. Alors, il ne faut pas le laisser faire. Jésus demande encore un changement radical qui est le respect de l'autre, des différences, même s'il n'est pas avec nous quant aux étiquettes, s'il est engagé dans la même tâche, nous devons le respecter. C'est aussi, me semble-t-il, ce que l'apôtre Paul dit au chapitre 14 et au début du chapitre 15 de l'Épître aux Romains. Il y a des différences d'opinion dans l'Église. Que dit Paul ? Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne vous chamaillez pas sur les opinions, sur les convictions différentes. Faites accueil. Reconnaissez que l'autre qui n'est pas de votre bord à tous égards, qui ne pense pas comme vous sur tel ou tel point, mais qui appartient à Jésus-Christ, qui est quand même engagé à son service, ou simplement qui est aimé par Dieu, ayez du respect pour lui. Et il me semble en particulier que ceci est important dans le domaine du témoignage. Je suis de plus en plus convaincu que quelquefois, notre volonté d'avoir le dernier mot dans des discussions avec des gens qu'on voudrait gagner au Seigneur est un terrible obstacle. Nous voulons prouver que nous avons raison, alors il faut absolument avoir le dernier mot. Mais avoir le dernier mot, ça veut dire rejeter l'autre un petit peu dans les ténèbres du dehors. C'est dire, toi, tu es dans l'erreur complète. Je crois que souvent, il vaut mieux dire ce que nous avons à dire, exposer notre position, notre foi, et puis laisser le Saint-Esprit agir. Mais vouloir avoir le dernier mot dans les discussions, c'est souvent bloquer la discussion, parce que si l'autre veut aussi avoir le dernier mot, ben vous pouvez être sûr qu'on n'en sortira jamais. Il n'y a aucune raison qu'on en sorte. Je me souviens d'une émission télévisée, il y a pas mal d'années, qui était une émission de grande écoute, une sorte de tribune libre, peut-être les dossiers de l'écran, je ne me rappelle plus, à laquelle un curé avait été invité. Et la majorité des autres interlocuteurs étaient hostiles à la foi chrétienne, et le pauvre curé s'est trouvé seul contre tous, et il a passablement bafouillé, hein, il n'a pas été à la hauteur au point de vue discussion. Et après ça, dans les journaux ou ailleurs, les chrétiens disent « c'est quand même dommage, on aurait pu trouver quelqu'un de beaucoup plus capable dans la discussion, etc. » Et un des journaux où cette opinion s'est exprimée a reçu ensuite une lettre d'un lecteur non chrétien disant « Votre curé que vous critiquez tant, c'est le seul, moi, qui m'ait fait impression. Parce que c'est le seul qui avait l'honnêteté d'avouer ses limites, de présenter son point de vue et de ne pas chercher à avoir raison à tout prix. » Et lui, il m'a touché. Et puis continuons, Luc 9, toujours, verset 51. Lorsque s'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem et envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. À cette vue, les disciples Jacques et Jean, les pauvres, ils sont souvent en cause ici, hein, ils s'appelaient les fils du tonnerre, ça devait être des bagarreurs. Dire « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Il se tourna vers eux et les reprit sévèrement en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes ou les vies des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Là encore, voyez-vous, Jésus reprend à zéro, au fond, la mentalité de ses disciples. L'esprit de vengeance. Voilà Jacques et Jean. Mais ça, c'est chacun d'entre nous, l'esprit de vengeance. Ah, tu m'as fait du mal. Attends un petit peu, je t'aurai au tournant. Renoncer à se venger. Renoncer à détruire celui qui m'a fait du mal. Ça implique aussi un fameux changement de mentalité. Oh, bien sûr, en général, on ne pense pas à le détruire parce qu'on n'en a pas les moyens. Parce que la loi nous interdit, parce que le risque serait trop gros, parce que nous sommes retenus par notre éducation, mais il y a une sorte de destruction morale dans laquelle nous entrons quelquefois. Renoncer à se venger, ce n'est pas une petite affaire. Mais ce n'est pas simplement quelque chose de négatif. Ce n'est pas simplement s'arrêter en disant « non, je n'irai pas plus loin ». Je crois que c'est lié, encore une fois, très exactement au pardon. C'est une décision que nous avons à prendre chaque fois de ne pas traiter l'autre selon ses mérites à nos yeux, parce que là encore, il faudrait revenir au jugement, hein, qui est souvent faussé. De ne pas traiter l'autre selon ses péchés, car Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, mais de lui donner par-dessus, de l'accueillir parce que Dieu nous le demande, parce que nous sommes appelés à l'aimer, et pas parce qu'il est aimable. Voyez-vous ? Il me semble que dans le Nouveau Testament, le péché le plus grave, ça n'est pas l'adultère, l'avortement, toutes sortes de choses que dans l'Église on a souvent mis au premier rang, c'est le refus de pardonner. Parce que ça, ça disqualifie radicalement notre relation à Dieu. Puisque ce que nous ne le sommes que parce que Dieu nous a pardonné en Christ. Mais là encore, le pardon, ce n'est pas l'indulgence, hein. Le pardon, c'est une victoire sur notre esprit de vengeance, sur notre désir de rejeter ceux qui l'ont mérité. Ce qui n'exclut pas dans certains cas, je pense ici à mon rôle de parent par exemple, ce qui n'exclut pas forcément le châtiment. Mais un châtiment n'est pas rejet. Le pire châtiment pour un enfant, celui qui détruit sa personnalité, c'est celui qui lui donne l'impression que ses parents l'ont rejeté. Un enfant peut supporter une bonne fessée, je suis persuadé, mais il ne peut pas supporter le chantage affectif par lequel ses parents lui donnent l'impression qu'il est rejeté, qu'il n'existe pas pour eux, qu'il n'est plus aimé. Ça, c'est grave. Le châtiment peut être un moyen pédagogique, mais qui ne signifie pas le rejet. Dans tous ces textes, voyez-vous, dans ces quelques exemples que je viens de citer, Jésus appelle ses disciples à la repentance. Il les appelle à renoncer à une certaine façon de voir et de réagir pour entrer dans la sienne, qui est celle de l'amour. Et c'est aussi ce qui se passe, par exemple, dans le texte que Paul dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 6, d'abord, ne vaudrait-il pas mieux souffrir quelque injustice ? Ou Pierre, dans le deuxième chapitre de son épître, dit, il vaut mieux souffrir injustement. Ou au troisième chapitre, il le dit deux fois d'ailleurs. Il ne s'agit pas ici de se résigner à la souffrance et à l'injustice. Mais il s'agit d'admettre et de comprendre que la chose la plus importante, ça n'est pas mon absence de souffrance, ça n'est pas mon petit confort, mais c'est la tâche à laquelle je suis appelé. Et si pour accomplir cette tâche, je dois accepter la souffrance, eh bien ça vaut mieux que de ne pas souffrir et de ne pas faire ce à quoi je suis appelé, de ne pas aimer. C'est une question de priorité, en quelque sorte, dans mon existence. On le voit d'ailleurs humainement parlant dans certains domaines. Je citais le cas de l'alpiniste qui s'impose des souffrances, qui accepte de passer la nuit gelée pour arriver au sommet. Mais celui qui est tranquille chez lui et qui n'a pas un but, qui n'a pas un idéal, ne serait pas capable d'accepter le quart de cette souffrance-là. Quelqu'un a dit que celui qui a un pourquoi vivre est capable de supporter n'importe quel comment vivre. Comme Jésus, il a accepté la souffrance parce qu'il avait un fameux pourquoi vivre. Il savait pourquoi il était venu. et il a été capable d'affronter la pire des souffrances dans ces conditions. Et puis alors, tout ceci, voyez-vous, implique une certaine humilité et l'effort de comprendre l'autre, de vouloir communiquer avec l'autre. Le pardon n'est possible que dans le cadre d'une communication à l'autre. Dire qu'on pardonne comme ça de loin en disant « je te pardonne » sans essayer de renouer le lien qui a été brisé, c'est pas du pardon ça. Le véritable pardon implique le rétablissement de la communication. Ce qui veut dire d'ailleurs bien souvent tout autant avoir le courage de demander pardon autant que la force de pardonner. Ça va dans les deux sens. Le pardon implique qu'on renoue une réciprocité. C'est pas un type qui d'en haut vient dire à l'autre « tu n'es qu'un pauvre type mais je te pardonne ». Ça c'est pas du pardon. Hein. Le pardon c'est une communication rétablie. C'est le renouvellement du dialogue. Je ne pardonne que si je suis prêt à écouter l'autre. Si je n'écoute pas l'autre, je n'ai pas vraiment pardonné. J'ai fait un acte paternaliste. Et alors, cet appel à la repentance, qui est, me semble-t-il, la clé du dénouement, ce n'est pas simplement un effort qui nous est demandé, effort sur nous-mêmes, effort moral. C'est surtout un retour à Jésus-Christ. Repentance, conversion, en hébreu, c'est le même mot. Et c'est surtout un verbe. C'est un verbe, le verbe revenir, retourner à Dieu. La véritable repentance n'est pas simplement de prendre une bonne résolution et de dire à l'avenir, je ferai autrement. J'ai compris la leçon. C'est toujours un changement de mentalité qui nous ramène à Christ, à l'essentiel. C'est en retrouvant une relation juste avec lui que nous pouvons trouver ce changement dans notre être qui nous permettra d'affronter et d'espérer résoudre le conflit. Parmi les textes que nous avons cités, il y en a un grand nombre qui ne nous disent pas simplement « voilà ce que vous avez à faire », mais qui nous renvoient à Jésus-Christ et à son amour. J'ai déjà cité tout à l'heure Matthieu 20, 28. Parmi vous, vous ne serez pas comme ceux qui cherchent à dominer, car le Fils de l'homme est venu non pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. La même chose dans les textes sur le pardon. Pardonnez comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et la parabole du serviteur impitoyable nous le montre bien en faisant comprendre à Pierre qui demande « combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Ce qui veut dire exactement à partir de quand je ne suis plus obligé de pardonner. Hein. Jésus fait comprendre dans la parabole « on t'a remis une dette immense, il est impensable que tu ne remettes pas la petite dette de ton frère. » Ce serait vraiment bafouer l'amour de Dieu et se moquer de lui. C'est l'amour de Dieu, c'est retrouver l'amour de Dieu qui te permet de pardonner. La même chose est vraie dans Philippiens 2. Paul demande que les chrétiens vivent en bonne unité, que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère aussi ceux des autres. Et il continue, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée l'égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, etc. » C'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, à cause de ce que nous avons reçu de lui, que quelque chose peut changer. Mais si nous oublions cela un seul instant, si nous cessons de nous tourner vers lui, le reste, ce sont des préceptes moraux qui n'ont aucune force parce que nous ne sommes pas capables de les suivre. Ce n'est pas en notre pouvoir. Il faut que cela nous soit donné. Et c'est pourquoi l'important, c'est de nous recentrer sur Jésus-Christ, de revenir à lui. Le changement de mentalité qu'est la repentance, c'est ce recentrement. C'est un petit peu, vous savez, comme une roue qui serait mal centrée et qui nous fait aller en canard. Hein. C'est ça notre vie quand Jésus-Christ n'est pas le centre. Et c'est ça nos conflits. C'est une marche en canard dans la vie. Et il faut retrouver l'équilibre qui est Christ au centre et qui nous fait marcher. Mais Jésus-Christ au centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous reconnaissons que c'est lui l'important et pas nous. Qu'il est plus important que nos problèmes. Ça signifie la capacité de déposer nos problèmes à ses pieds et de les dédramatiser. On ne peut dédramatiser nos problèmes qu'à côté de la croix de Jésus-Christ. Ça, c'est un problème, la croix de Jésus-Christ. Nos petites histoires, c'est de la bricole à côté. Hein. Mais nous, nous en faisons une montagne. Non, devant la croix du Christ, on s'aperçoit que c'est risible, nos histoires. On devient capable de rire de soi, parce qu'on est quand même aimé. On devient capable d'humour. Je ne crois pas qu'il y ait de solution de problème sans humour, qui est une des formes de l'amour. L'humour, c'est rire de soi. Hein? Ce n'est pas se moquer des autres. L'ironie, c'est tout à fait autre chose. Hein? Mais c'est la capacité de comprendre que, au fond, l'essentiel, ce n'est pas que je retrouve mon petit confort tranquille. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. L'essentiel, c'est que je le suive, même si ça me coûte. C'est à ce prix-là que l'on peut espérer sortir de nos conflits. Mais ça implique, je crois, par-dessus tout, nous le verrons dans un instant, se replacer devant sa grâce. Ça nous humilie, hein, mais c'est une humiliation saine que de se rendre compte que nous ne sommes pas le centre du monde. D'abord, c'est tout simplement la vérité. Et la vérité ne nous fait pas de mal, ni dans ce domaine, ni dans d'autres. Et puis alors, en tant que chrétien, c'est aussi nous rappeler que nous appartenons à Jésus-Christ. Il nous a rachetés à un grand prix. Le frère aussi appartient à Jésus-Christ. Au chapitre 14 de l'Épître aux Romains, Paul dit « Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre ? S'il se tient debout ou s'il tombe, ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de son maître. Mais il se tiendra debout, parce que son maître a le pouvoir de le faire se tenir debout. » Romains 14, 4 et 5. C'est des versets à méditer, ça. Hein. Nous appartenons au Seigneur, l'autre comme nous, ceci évidemment pour les conflits entre chrétiens, mais ça nous rend humbles. Je ne suis pas le maître de l'autre, mais je ne suis pas non plus le maître du non-chrétien avec qui je suis en conflit. Et si je suis parent, je ne suis pas non plus le maître de mes enfants. Et si je suis mari, je ne suis pas le maître de ma femme. C'est le fait de faire place à l'autre, de reconnaître que ma place est une place parmi d'autres. Cela, je peux le reconnaître, si vous voulez, si j'accepte que Jésus-Christ soit le Seigneur. C'est lui qui domine, alors j'ai ma place à côté des autres. Sinon, c'est moi qui chercherai à être le Seigneur. Alors évidemment, j'envahis l'autre, je le domine, et je me prends très au sérieux, et je deviens un type impossible et invivable. Et puis alors, se recentrer sur Jésus-Christ, c'est se replacer sous sa grâce, sous son pardon, sous sa miséricorde. Et ça, c'est merveilleux. Une des causes les plus fréquentes de conflits, c'est notre angoisse. L'angoisse est génératrice de conflits. Nous avons peur de perdre notre position, notre honneur, notre dignité, nos biens, l'amour des autres. Nous nous sentons menacés et alors nous devenons agressifs. Nous avons besoin de nous défendre. Et c'est vrai cela. Le professeur Georges Crespi, dans son livre « Croire aujourd'hui », c'était des conférences de carême il y a quelques années, essaie d'expliquer ce que l'apôtre Paul appelle la chair, dans les termes suivants. « Comment vas-tu ? Je me défends. » La langue populaire a trouvé le verbe le plus juste. « Je me défends contre la mort et ses multiples visages, contre les importuns, contre la maladie, contre le percepteur, contre le patron, contre ma belle-mère. » Contre la pauvreté, car après tout, il faut bien que je vive. L'apôtre Paul dit à peu près la même chose dans un vocabulaire plus technique lorsqu'il parle de vivre selon la chair. La chair, c'est ce qui m'oblige à me mettre moi-même, avec mes déceptions et mes espoirs, avec mes désirs et mes manques, au centre de moi-même. Se défendre quand on se sent agressé, quand on se sent exclu, quand on se sent réduit à rien, méprisé. Alors on réagit par la violence, on réagit par le conflit. On a besoin de s'affirmer et de s'affirmer contre l'autre. Vous savez, on l'a souvent dit, le plus sûr moyen d'unir des gens, c'est l'esprit de secte. C'est-à-dire, on se rassemble contre les autres. Il suffit de voir les guerres. C'est pas difficile dans les guerres de retrouver l'unité nationale, pendant un temps au moins, parce qu'on a un ennemi commun. Ça, c'est facile, c'est merveilleux, parce qu'on se sent tous menacés ensemble. La grâce de Jésus-Christ, c'est l'assurance que malgré toutes les menaces qui pèsent sur nous, les gens qui ne nous aiment pas, qui ne nous comprennent pas, il y a celui qui nous aime tels que nous sommes, qui nous aime d'un amour de miséricorde, c'est-à-dire malgré nos péchés, malgré nos petites saloperies et nos lâchetés. L'assurance d'être aimé nous libère de cette angoisse la plus grande contre laquelle nous réagissons par la violence, le conflit, la dureté, le mensonge, etc. Il n'y a pas d'autre victoire sur l'angoisse que l'annonce du salut par grâce. Si je suis sauvé par mes œuvres, j'ai besoin de m'affirmer contre les autres. Encore une fois, la parabole du pharisien et du publicain. Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il faut que les autres soient des pauvres types pour que je sois quelqu'un. Pour me convaincre que je vaux quelque chose, il faut que je puisse me dire que je vaux plus que les autres. Mon orgueil dont j'ai besoin si je ne suis pas sauvé par grâce. Si je ne suis pas sauvé par grâce, il faut que j'ai des mérites. Il faut que je sois quelqu'un. Hein ? Cet orgueil-là me sépare radicalement des autres. L'écrivain anglais C.S. Lewis disait que l'orgueil de tous les péchés, c'est celui qui sépare le plus radicalement, parce qu'on n'est jamais orgueilleux d'être grand, fort, intelligent, etc. On met toujours son orgueil à être plus grand, plus fort, plus intelligent que les autres. Hein? Quand je dis « je te loue de ce que je ne suis pas comme ce publicain », je mets une barrière entre lui et moi. Mais c'est le salut par grâce qui fait tomber la barrière. Ce n'est pas par hasard si dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, dans la première partie, Paul dit « Vous êtes sauvés par grâce par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et dans la deuxième partie, il dit « Jésus-Christ a fait tomber le mur de séparation, la haine qu'il y avait entre les Juifs et les païens. Vous êtes tous membres d'une même famille. » Ce n'est pas du tout un hasard. C'est sa grâce qui fait de nous membres d'une même famille. Parce que devant sa grâce, nous sommes tous des pauvres types. Nous sommes tous des pécheurs qui avons besoin de pardon. Mais nous sommes tous sûrs de son pardon et de son amour. On n'a pas à le gagner, on n'a pas à le mériter. C'est tel que nous sommes avec nos limites. Nous sommes alors libérés du besoin de nous défendre, libérés du besoin d'affirmer notre différence avec les autres et notre supériorité. Nous pouvons admettre que le frère ne soit pas comme nous et qu'il soit quand même un frère parce que Jésus-Christ est mort pour lui, parce qu'il est au bénéfice de la même grâce. Et l'assurance de cette grâce, voyez-vous, l'assurance d'un amour qui nous est donné, qu'on n'a pas à acheter, je crois que c'est ça qui nous donne cette liberté d'être nous-mêmes, qui permet l'humour, qui permet de dédramatiser les situations. Et puis dans tout cela, la grâce de Dieu, qui nous a sauvés, nous rappelle que le Seigneur agit. Pour notre salut, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est lui. Il a guéri nos infirmités. Et il veut aussi guérir ces autres infirmités qu'est notre incapacité d'aimer, notre agressivité, notre peur des autres qui engendre toutes sortes de conflits. Le Seigneur agit dans les conflits. Il nous demande de ne pas trop compter sur nos efforts et sur nos recettes. Il ne suffit pas de connaître la bonne marche à suivre. Parce que si on croyait ça, le jour où on l'applique, on n'y arrive pas, on tombe dans le désespoir. Hein. Je ne connais rien de plus désespérant que toutes ces réclames qu'on voit dans toutes sortes de journaux, genre Reader's Digest et tout ça, qui vous disent « Il ne tient qu'à vous de réussir. Il ne tient qu'à vous de finir vos conflits. » Parce que on essaye et on n'y arrive pas. Alors on est plongé dans le désespoir. Le Seigneur agit. Ça signifie que même si, après avoir fait le pas vers le frère qu'il fallait faire, après avoir accepté de me repentir et de changer ma vision des choses, je n'arrive pas au résultat, je n'ai pas à désespérer. Dieu guérit. Mais Dieu ne le fait pas toujours exactement au moment où nous voudrions, parce qu'il a souvent des choses à nous apprendre. Nous pouvons continuer à lui faire confiance et à lui remettre nos conflits dans la prière. Voyez-vous, ce n'est pas simplement tous les conseils que donne l'apôtre, soyez patients, supportez-vous les uns les autres, etc. Ce n'est pas simplement des conseils moralisants. C'est un appel à la repentance, mais c'est aussi un appel à se remettre et à remettre nos problèmes et nos conflits au Seigneur qui agit et qui guérit, et sans lequel nous pouvons faire tout ce que nous voulons, il n'y aura pas de vraie solution. C'est lui, en fin de compte, qui la donne.
discussion le rôle d'une instance déterminante. Il n'y a rien dans la Bible sur ce point. Et pourtant, à la suite de l'usage de certains arguments de convenance, comme elle est la mère de Jésus, qui est Dieu, il convenait qu'elle soit alors douée de toutes les perfections, c'est qu'elle n'ait pas été impliquée par le péché. À la suite d'arguments de convenance, qui ne sont pas dans la Bible elle-même, on a abouti à une telle conclusion. Je crois que manifestement, il y a là une subordination de l'Écriture à la tradition, une certaine tradition, et à celle que le magistère a décrétée juste. Adolphe Monod a une image un peu brutale pour dire ça. Ce n'est pas, bien que ce soit lui qui ait lancé le mot d'œcuménisme au sens moderne, Adolphe Monod utilisait cette image. Il dit, vous dites, j'ai la Bible et la tradition, donc j'ai plus que vous. Mais c'est comme si vous disiez, j'ai une maison et puis j'ai un canon qui tire dessus. C'est simple et c'est brutal, mais c'est quand même le problème. Le problème, c'est celui de l'incompatibilité d'orientation entre certaines des choses qui sont affirmées au nom de la tradition et ce que l'on peut trouver dans l'Écriture. Je me rappelle encore un autre exemple, lors d'une controverse entre Bossuet et un pasteur du XVIIe siècle, je crois que c'était Dumoulin, mais là je ne suis plus tout à fait sûr. Ils étaient arrivés à cette conclusion à propos de la coupe de l'Eucharistie. Le pasteur était arrivé à faire dire à Bossuet, oui, au fond, pour vous, Jésus a dit « buvez-en tous », mais l'Église sait que lorsqu'il a dit « buvez-en tous », il voulait dire « n'en buvez pas tous ». Oui. Eh oui, n'est-ce pas, comme vous le savez, dans la célébration catholique de l'Eucharistie, le calice ne circule pas parmi les fidèles. Seul le prêtre y participe. Alors, n'en buvez pas tous. Oui. Oui. Là, vous avez le problème de cette adjonction d'une tradition interprétative, même si elle est seulement interprétative, mais considérée comme ayant le droit et même le devoir d'indiquer quel est le sens des textes de l'Écriture. Et nous devons nous rappeler alors de nouveau cette parole de Matthieu 15, lue tout à l'heure. Vous privez de son autorité la parole de Dieu à cause de votre tradition. Il est possible par une tradition, en prétendant entièrement préserver l'autorité du texte, c'était le cas des pharisiens, il n'y a pas de doute, il est possible d'annuler effectivement, en pratique, la tradition du texte. Je crois que nous sommes ici de nouveau en présence d'un conflit avec les perspectives bibliques qui font de la parole de Dieu le fondement, ce qui donne son existence à l'Église et qui a le pouvoir de juger l'Église. La manière dont Paul présente son message aux églises diverses, semble impliquer toujours que c'est ce message qui va juger les églises et leur façon de penser, et non pas jamais les institutions de ces églises qui vont pouvoir déterminer le sens du texte de l'apôtre Paul. De nouveau, il y a une sorte d'atténuation de l'une fois pour toutes, comme on l'a souvent observé à propos de la croix et de sa répétition, qui n'était pas une répétition tout en étant une répétition dans l'idée du sacrifice de la messe. Il y a une atténuation de cette simplicité de l'une fois pour toutes. En tout cas, c'est ce qui m'apparaît le cas. Et je ne suis pas le premier de très loin à avoir dit que nous sommes en présence d'une sorte d'illuminisme aussi, plus subtil, beaucoup mieux gardé, mais un illuminisme institutionnel. Ce n'est pas quelque individu qui pense avoir reçu une révélation supplémentaire, mais c'est une institution qui, en ses représentants majeurs, pense avoir une vérité d'orientation quant au sens de la Bible, qui, malgré tout, s'ajoute à cette Bible. Et comme dans l'illuminisme de type grossier et ordinaire, le problème de l'épreuve des esprits reste posé. Comment discerner entre plusieurs esprits? Comment discerner entre plusieurs institutions? Ce n'est pas, pour les questions de vérité, la taille qui peut importer par-dessus tout. D'ailleurs, il y a eu tout un temps, par exemple, dans l'Antiquité, où c'est une hérésie, l'arianisme, qui était plus nombreuse dans l'Empire romain que le christianisme orthodoxe en matière de doctrine du Christ. Et l'empereur était du côté arien. Donc ce n'est pas une question de nombre, ça ne se décide pas à la majorité parlementaire, bien sûr, ces choses-là. Ce n'est pas la taille d'une institution. Est-ce que c'est la continuité historique extérieure, comme la doctrine de la succession apostolique le suppose généralement? Mais d'abord, pourquoi cette continuité extérieure serait-elle une garantie? Elle n'est pas annoncée dans le texte biblique lui-même, et on ne voit pas pourquoi le risque d'une déviation radicale serait exclu par le simple fait que ces hommes se sont trouvés au même lieu et se sont en quelque sorte touchés dans la chaîne d'histoire. On peut à la rigueur dire qu'il y a peut-être une présomption favorable en faveur d'une institution qui connaît une telle continuité extérieure, mais on ne peut vraiment pas en dire plus. Et sur tant de siècles, les possibilités de déviation sont trop sérieuses pour qu'on puisse s'appuyer sur le fait de cette continuité extérieure. Il faut éprouver les institutions. Et d'ailleurs, il y a plusieurs institutions qui prétendent avoir cette continuité. L'Église anglicane le prétend aussi. Donc, vous n'évitez pas le problème de la comparaison des prétentions, comme entre les chefs de secte, entre les institutions traditionnelles. Si vous considérez ce qui est dit alors dans l'Écriture, car il faut finalement revenir à l'Écriture comme instance déterminante qui éprouve les esprits, qui éprouve les institutions, bien, je crois que vous discernez, je ne vais pas le développer ça maintenant, bien sûr, je crois que vous discernez que la notion d'institution telle qu'elle s'est développée dans la tradition catholique ne correspond pas au sens de l'Église dans le Nouveau Testament. Il y a des charismes, des ministères dans l'Église, mais non pas une hiérarchie revêtue de tous ses pouvoirs. L'idée que les apôtres et des successeurs n'apparaît pas, des successeurs qui soient revêtus d'un pouvoir semblable à eux, semblable à celui qu'ils ont détenu, cela ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Et ce qui apparaît au contraire, c'est la notion de l'Église comme d'une réalité spirituelle distincte d'une grande structure visible. Dieu connaît ceux qui sont siens, et l'Église est la communion de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit par une foi personnelle en Jésus-Christ. Ce qui nous éloigne de la grande vision historique où tous ceux qui ont fait partie du corps de la chrétienté sous conduit dans son côté religieux par cette institution étaient considérés comme chrétiens et appartenant à l'Église. Nous sommes, je crois, assez loin là du Nouveau Testament. Alors je crois qu'on peut dire que le piège de la subjectivité, qui est si évident dans l'illuminisme individuel, n'est pas évité là non plus, seulement il n'est pas apparent. Parce que chaque individu s'en remet à la grande institution. Mais ça ne fait qu'une collection d'individualités. Ultimement, il s'agit toujours d'hommes, et il faut que l'Écriture soit reine sur l'Église. Troisième voie, la voie critique, qu'on pourrait appeler libérale, avec une petite version néo-orthodoxe, ou moderniste. C'est un type qui, dans son développement, est lié à l'émergence de l'humanisme, donc qui est moderne, d'ailleurs comme le mot de moderniste le suggère. Remarquez qu'à son propos aussi, on pourrait trouver dans l'Antiquité déjà des mouvements qui sont à certains égards comparables. Certains éléments du mouvement gnostique au second siècle, et peut-être plus spécialement encore le mouvement manichéen au IIIe et IVe siècle, pourraient se comparer par une certaine prétention de connaissance rationnelle à ce que j'appelle la troisième voie, la voie critique. En tout cas, ce type qui s'est élaboré particulièrement dans l'œuvre de Spinoza au XVIIe siècle a envahi le monde protestant, où il s'est d'abord développé au XVIIIe siècle, il l'a envahi au XIXe siècle. Et il a conquis la plupart des grandes branches. Il y a eu des îlots de résistance importants, mais on peut dire qu'il a déferlé à partir de l'Allemagne sur le monde entier par vagues successives au cours du XIXe siècle. Dans le catholicisme, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il a envahi, de telle sorte que la voie que je viens de décrire à propos du catholicisme n'est plus valable pour une grande part du catholicisme romain d'aujourd'hui. Car la voie moderniste, qui est nettement différente, elle a remplacé pour la masse des théologiens, en gros depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu une première crise, à la fin du 19e au début du 20e, qu'on a appelée la crise moderniste, mais le pouvoir pontifical a été tel qu'il a réussi à écraser cette vague-là, et il a semblé victorieux. Mais il y a eu une résurgence après la Deuxième Guerre mondiale, et cette fois victorieuse. Pour ce troisième type, la doctrine doit être construite à l'aide de la Bible et de certitudes acquises autrement. Alors ces certitudes viennent d'une science et d'une philosophie autonome, indépendante de la Bible elle-même. La science, alors la science de la nature, mais surtout la science critique, historico-littéraire, portant sur les textes bibliques, et puis les philosophies déterminent la construction de des théologies ou doctrines qu'on peut appeler critiques. Les philosophies, alors, sont très diverses, soit plutôt rationalistes, soit plutôt irrationalistes, soit les deux à la fois, car il en est qui sont les deux à la fois. Dans certains cas, l'influence philosophique est relativement cachée ou n'est pas tout à fait avouée, mais je crois qu'on peut la discerner quand même chez ceux qui essaient le plus de la cacher, je pense spécialement à Karl Barth, théologien le plus fameux, sans doute, de notre siècle. La grande originalité de ce type par rapport aux trois autres, c'est qu'elle opère un tri dans l'écriture. Les illuministes, les traditionnalistes, ou ceux dont nous parlerons ensuite, respectent l'intégrité de l'écriture. Bien sûr, dans le cas de l'illuminisme et du traditionalisme, il y a autre chose qui vient, en quelque sorte, étouffer la voix de l'écriture ou la déformer. Mais malgré tout, l'écriture est conservée comme un tout avec une reconnaissance officielle de son autorité. Dans le cas de la voix critique, cela n'est plus. Mais l'écriture est soumise ouvertement au jugement des hommes et on y fait un tri entre ce qu'on rejette et ce qu'on veut garder. Et cela implique une séparation. Spinoza a très bien vu ça, déjà en son temps, une séparation entre écriture et parole de Dieu. L'écriture n'est pas comme telle la parole de Dieu. Il y a un rapport, mais on ne peut pas en dire plus. Alors essayons de reconnaître quand même quelques avantages à ce type. Il a celui, bien sûr, de plaire aux générations successives d'intellectuels, car il représente une combinaison des vues qui règnent dans le monde des intellectuels et puis des données bibliques ou chrétiennes classiques que l'on essaie d'adapter. Donc, par construction même, ce type plaît aux intellectuels d'un temps donné. Mais en dehors de cela, eh bien, je pense qu'on peut dire que cette voix reconnaît que nous devons exercer notre responsabilité lorsque nous lisons la Bible, que nous construisons notre doctrine. Il ne faut pas tout avaler, n'importe quoi. Que pour trouver le sens, il faut user d'une méthode rigoureuse qui prend en compte toutes les données historiques et philologiques qu'on peut avoir à propos du texte. Toutes les données qui viennent d'un monde qui a été créé par Dieu et qu'on ne peut pas mépriser. À coup sûr, dans les âges qui ont précédé l'avènement de cette approche critique, il y a eu les façons de prendre les textes bibliques qui négligeaient de cette étude patiente, méticuleuse, systématique. Et on peut reconnaître cet avantage dans l'ordre de la responsabilité et de la méthode à la voie critique. Mais cet avantage reconnu, nous devons alors dénoncer l'attaque corrosive, destructrice de l'autorité de l'écriture dans ce système. C'est pas la peine de démontrer, d'essayer de le prouver. C'est ouvertement que l'écriture est placée là sous le jugement des hommes. Ce n'est plus caché comme dans les deux précédents types. Et cela même dans le cas du barthisme, je crois qu'on peut le montrer. Même Karl Barth, qui a été présenté comme un réformateur restaurant l'autorité de la parole de Dieu, même Karl Barth a dit qu'il y a des contradictions, des erreurs dans l'écriture. Il a refusé de prendre ici ou là tel élément qui est nettement attesté dans l'écriture. Donc même Karl Barth, qui n'est sûrement pas le plus extrême, je le prends au contraire parce qu'il serait plus proche, même Karl Barth a mis l'écriture sous son jugement personnel. Et si Karl Barth lui est resté prêt, il y en a d'autres qui vont extrêmement loin et qui ne conservent que vraiment bien peu de choses dans leur référence à l'écriture. Alors ça, c'est une opposition aussi violente que possible aux prétentions de la Bible elle-même à son assurance d'être pour nous le message du Dieu souverain qui requiert notre adhésion. Celui qui adopte cette voie critique, me semble-t-il, quitte la place du disciple. Il prend la posture du maître qui juge la parole éventuellement d'un autre maître ou dans le cas de beaucoup de critiques, on a l'impression qu'il corrige les prophètes et les évangélistes comme un professeur corrige les copies de ses élèves et qu'il barre ici telle faute qu'il se moque ici de telle erreur de raisonnement, etc. Et réellement, je ne vois pas pour ma part, et pourtant j'ai lu beaucoup de la plume des hommes qui adoptent la voie critique, je ne vois pas comment on peut dire avec toute sa portée, l'affirmation clé du christianisme, Jésus est Seigneur, lorsqu'on traite le texte comme ça. Car, vraiment, on ne prend plus les paroles de Jésus, du seul Jésus dont nous ayons quelques connaissances. On ne voit pas. Autrement, c'est un Jésus que l'on rêve et que l'on bâtit soi-même. On ne prend plus les paroles de ce Jésus comme les paroles d'un Seigneur. Quand on se permet de dire, comme, et là encore, c'est un homme très proche, un homme dont j'ai lu un livre et je l'ai recommandé énormément, que j'ai rencontré parce que je l'estime encore pourtant très bien, un homme qui est proche des évangéliques, qui a pu dire, mais c'est évident que Jésus s'est trompé quant à la date de l'avènement du Fils de l'homme. Il a cru que ce serait tout près, tout bientôt, et puis ça ne s'est pas produit. Ça, c'est quelque chose qui s'admet dans les milieux qui acceptent la voie critique, mais quelque chose qui s'admet de presque tous. Mais vous vous rendez compte que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus n'est plus traité comme le Seigneur. Celui qui se permet de dire ça cesse ipso facto de considérer Jésus comme son Seigneur, dont la parole est la parole qui a tous les droits sur lui. On peut encore parler d'illuminisme aussi, mais cette fois c'est un illuminisme académique. Ce n'est pas la voix intérieure de quelqu'un inspiré, mais c'est l'illumination de quelques philosophes. Il faut voir comment certains de ces critiques contemporains traitent Heidegger, au point qu'il y a eu un colloque, je crois, où Heidegger a été obligé de dire aux théologiens, écoutez, quand même, vous feriez bien de vous référer un peu plus au Nouveau Testament et un peu moins à moi. Parce que c'est manifeste. J'ai lu des livres qui disent à peu près clairement la conception du temps, par exemple, dans la Bible, qu'elle soit ci ou qu'elle soit ça, finalement, ça ne nous importe pas. C'était l'opinion de ces auteurs-là. Mais il suffit que Heidegger change, lui, sa conception du temps, si jamais il veut la changer, pour que ce soit la révolution, alors, dans la doctrine. Ça, c'est, me semble-t-il, manifestement, un autre type d'illuminisme, mais un illuminisme académique. Oui. Et je veux dire, il est évident aussi, me semble-t-il, que la raison critique et philosophique ne se dégage pas du problème de l'arbitraire qui est aussi celui de l'illuminisme. Les modes changent avec une facilité dérisoire dans l'édification des doctrines de cette troisième voie. Chaque fois, un homme se lève et prétend qu'il a trouvé enfin l'approche scientifique rigoureuse. Vous avez eu cette prétention avec la phénoménologie, par exemple, au XXe siècle. Et voilà enfin la philosophie. On allait débarrasser toute l'histoire de la philosophie des vieux problèmes qui n'étaient que de faux problèmes. Puis les néo-positivistes ont dit la même chose, etc. Puis chaque génération amène un autre homme qui a enfin trouvé la formule, la philosophie à laquelle il ne peut résister. Puis il est balayé par la génération qui suit. Et alors les théologiens qui s'essoufflent à suivre avec quelques temps de retard. C'est à rire ou à pleurer, bien sûr. Mais si vous prenez l'histoire de la doctrine des milieux qui ont adopté cette voie critique depuis deux siècles, vous verrez que ça change sans arrêt et au gré des modes philosophiques. Que vous suivez l'histoire de la philosophie dans ses retentissements théologiques. Je me rappelle un cartoon dans une revue aussi. On accueille un théologien sur le sol américain. Là. Je vous présente le docteur So-and-so, dont les vues ont eu une énorme influence entre le 15 janvier et le 15 février 1978. C'est bien la preuve qu'il n'y a aucune stabilité, aucune rigueur dans cette façon de construire la doctrine. Ce sont des hommes emportés à tout vent de doctrine, selon l'expression que Paul emploie pour repousser cette vision dans le chapitre 4 aux Éphésiens. Et derrière cette réalité, il y a le fait qu'il n'y a pas de raison autonome, que la raison dépend toujours de ses présupposés, comme je l'ai déjà souligné cet après-midi, de l'orientation du cœur, puisque la raison, c'est le cœur qui résonne. Et vous ne pouvez pas éliminer ces choix, ces options fondamentales. La raison de l'un se dirigera tout autrement que la raison de l'autre à cause de ces aiguillages premiers. Et il faut que l'aiguillage soit le bon pour que la révélation générale de Dieu, les faits qui sont étudiés, soient perçus dans leur véritable lumière, pour que la méthode philologique et historique, qui en elle-même est bonne, porte des fruits sérieux. Il faut qu'elle soit conduite dans la dépendance de l'optique biblique elle-même. Autrement, elle conduira à des résultats d'incrédulité, parce qu'au cœur, elle sera conduite par l'incrédulité. Alors il reste comme quatrième type la voie évangélique. J'emploie le mot au sens où les GBU sont un mouvement évangélique dans le monde. L'Union internationale à laquelle appartient le mouvement des GBU français s'appelle en anglais la Fellowship des étudiants évangéliques. Alors j'ai essayé à Vivier de définir un peu plus précisément le sens du mot évangélique, je n'y reviens pas. Je ne vais pas développer ce qui concerne ce quatrième type, puisque j'aurai l'occasion, en parlant demain, de donner plus de précisions à son égard aussi. C'est un type qui a été esquissé au cours du Moyen-Âge par quelques docteurs courageux, comme Wycliffe en Grande-Bretagne, comme Jean Hus en Bohême, mais il ne s'est constitué dans toute sa clarté, avec sa précision, qu'au moment de la Réforme. Et je crois qu'on peut discerner la raison du privilège de cette époque. Cette époque de la Réforme, c'est chez ces hommes la rencontre d'une expérience intense de la grâce qui a bouleversé leur vie. Luther, qui est le premier réformateur, a vécu avec extrême intensité le drame de la conscience accusée devant Dieu. Ça a été d'abord chez lui un drame intime. La rencontre entre une expérience de la grâce très vive, chez Calvin aussi d'ailleurs, chez les autres, il y a eu une expérience très forte, et puis la méthode rigoureuse des humanistes. À une époque où l'humanisme, qui ne faisait que commencer, n'avait pas encore développé ses virtualités d'athéisme et d'idolâtrie de l'homme. Les humanistes, ont amené des outils nouveaux d'études beaucoup plus rigoureuses des textes. Ce qui leur manquait, cette expérience de la grâce, et donc de la majesté de Dieu qui lui rend ses droits. Mais chez les réformateurs, ce qui a permis la constitution d'une autre approche, c'est qu'ils ont eu à la fois les outils de la technique philologique d'un Érasme et d'autres, et Lefèvre d'Étaples, etc., et puis alors une expérience saisissante à la manière de celle de Saint-Augustin, dont ils étaient d'ailleurs de grands lecteurs, ils étaient des Augustiniens. Et je crois que nous pouvons apprécier comme une démarche de la providence divine cette rencontre précisément au XVIe siècle. Alors quel est le principe de cette voie évangélique quant à la construction doctrinale? Bien, la doctrine doit être construite à partir de la Bible seule. Voilà le contraste. Bible seule et non pas Bible et autre chose. Le slogan, pourrait-on dire, c'était sola scriptura, l'écriture seule, par l'écriture seule. Alors, je dis bien, la doctrine doit être construite. C'est la norme. En fait, les réformateurs et tous ceux qui ont suivi cette voie évangélique reconnaissent que parce que leur intelligence est imparfaitement sanctifiée, ils succombent ici ou là à l'influence de telles traditions humaines, et pourtant incorrectes, ou de telles philosophies à la mode, ou peut-être pas à la mode. Oui, c'est la norme, c'est l'idéal que l'on poursuit, de tirer de la Bible seule la doctrine. En fait, on peut glisser à droite et à gauche par moment, mais le fait que l'on tienne quand même à chercher dans la Bible seule la doctrine prémunit contre les plus grandes divagations. L'écriture, pour être vraiment souveraine dans la construction de la doctrine, doit s'interpréter elle-même. Et ça a été aussi une expression qu'ils ont employée. L'écriture interprète d'elle-même. Car si pour comprendre l'écriture, l'interpréter bien, vous avez besoin d'une autre instance, alors finalement, fatalement, l'écriture sera soumise à une autre autorité qu'elle, et vous pourrez infléchir son sens de quelque façon. Donc il faut que l'écriture elle-même puisse nous dire comment elle se lit bien. Alors je crois que le problème de montrer comment la chose peut se pratiquer est relativement délicat. J'ai essayé de faire quelques travaux dans ce sens, et si quelqu'un veut vraiment chercher plus loin, je peux signaler d'une part un petit fascicule paru dans les cahiers de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne sur l'autorité de la Bible et son interprétation, où se trouvent des notes assez schématiques, mais il y en a quand même une dizaine de pages, sur ce que cela peut alors concrètement signifier, que l'écriture s'interprète elle-même et nous guide ainsi dans l'interprétation. Et vous pouvez aussi vous rapporter aux remarques faites en conclusion d'un très long article sur la théorie de l'interprétation de Paul Ricoeur, du philosophe moderne Paul Ricoeur, qui est un protestant moderniste libéral. Alors à la fin, ayant présenté puis critiqué ses vues, j'esquisse aussi ce que peut signifier l'écriture s'interprète elle-même. Mais un élément pratique, il n'y a pas besoin de toutes ces explications que je signale dès maintenant et que les réformateurs ont mis en valeur, c'est que pour interpréter l'écriture, il va falloir céder des autres passages. Il faudra toujours essayer de comparer les textes entre eux, essayer d'éclairer ceux qui sont les moins clairs par ceux qui sont les plus clairs, essayer de discerner les lignes de force de l'enseignement pour revenir à ceux qui d'abord, au passage, qui d'abord n'ont pas paru d'un sens évident, etc. Interpréter l'écriture comme un tout en la sillonnant en tous sens, en quelque sorte, et en utilisant les correspondances qui s'y trouvent, parce que ce qui est d'une aide inappréciable quand on lit l'écriture, c'est que l'écriture se cite elle-même. Comme l'écriture a été rédigée sur au moins 13 siècles, alors vous avez des auteurs postérieurs qui citent des auteurs antérieurs, etc. Et du coup, vous avez des aides pour la compréhension qui sont très très importantes. L'écriture interprète d'elle-même. Ça, c'est le noyau. Alors avec ça, il y a reconnaissance d'éléments, disons des éléments avantageux dans les autres positions. En tout cas, le type évangélique devrait s'assimiler ces avantages. L'utilisation d'une méthode rigoureuse qui tienne compte de toutes les données possibles sur le contexte historique, par exemple. Mais bien sûr, les évangéliques en sont d'accord. Ils n'ont peut-être pas fait leur travail avec assez de zèle à cet égard dans le passé, mais je crois qu'ils le font de mieux en mieux. Et oui, ça on peut. Sur la nécessité de recueillir toutes ces données, on peut être d'accord avec les critiques, seulement sous l'autorité de la Bible elle-même. De même, le recours à une tradition positive, est dans l'Église. Si l'Église est considérée comme soumise au jugement d'Écriture, et la tradition considérée comme soumise au jugement d'Écriture, alors il faut reconnaître le grand prix qu'on doit attacher au travail de tous les prédécesseurs, de tous les pères en la foi. Et là, alors, je crois que les évangéliques, souvent, n'ont pas tenu compte comme il le fallait. Et ils sont tombés dans les pièges de l'individualisme. La tradition, c'est pas un mot qu'il faut prendre comme négatif. Je sais que j'ai parfois choqué certains des étudiants qui étudient ici, parce que j'emploie couramment le mot tradition de façon positive. C'est que certains ont été hérissés parfois. Mais je maintiens, la tradition, c'est une très belle chose, pourvu qu'elle n'exerce pas un magistère, mais qu'elle soit un ministère. Dieu a institué dans l'Église des ministères, pas un magistère. Le magistère se le réserve à lui qui nous parle dans la Bible. Mais la tradition est précieuse, c'est un ministère dont il est fou de penser se passer. Et il faut recourir aux écrits des hommes venus avant nous. Et bien sûr, il faut toujours se rappeler que c'est grâce à l'illumination du Saint-Esprit qui nous guérit de nos aveuglements qu'il est possible de comprendre que si nous nous en remettons à notre seule méthode historico-philologique, si nous nous en remettons à nos seules traditions aussi, nous errerons inéluctablement, car c'est l'Esprit seul qui peut vraiment nous faire comprendre, non pas en nous fournissant des révélations de plus, mais en disposant notre cœur comme il faut. Alors dans la discussion avec d'autres, ça nous permettra de faire apparaître dans l'Écriture elle-même, c'est dans l'Écriture, les éléments qui montrent que c'est bien ça. Et nous ne pourrons pas prétendre que parce que nous sommes sûrs que le Saint-Esprit nous habite, alors c'est ça qui est la bonne interprétation. Il faudra que ce soit dans le texte. Mais il n'empêche, nous devrons demander par une prière renouvelée que le Seigneur nous guide dans l'interprétation, sans quoi nous errerons, je crois, fatalement. Il me semble que cette voie évangélique, telle que je l'ai définie, telle que nous essayons de la pratiquer sans toujours y réussir, est la seule manière d'échapper à l'arbitraire des hommes et laisser Dieu vraiment régner sans partage. C'est vraiment lui là qui décide, par sa parole, entrer dans notre histoire. Et je fais observer ce que j'ai déjà annoncé cet après-midi, que au sein de cette tradition, oui, parce que j'accepte le terme, cette tradition évangélique, il y a une grande cohérence, une grande stabilité. Des réformateurs jusqu'à nous, vous pouvez voir que les thèses essentielles sont préservées et qu'il y a un très large accord. Ça contraste avec cette variabilité de girouettes de la théologie de type critique. En un sens, je plains beaucoup les théologiens critiques. Ils sont fameux pour un temps, mais ils peuvent être sûrs qu'on rira d'eux la génération d'après, ou peu de temps après. Alors que les grands théologiens évangéliques, du 16e, du 17e, du 18e, ils sont toujours révérés, aimés. Dieu se sert d'eux pour l'instruction du peuple dans les églises évangéliques. Ils peuvent être assurés que leur labeur n'est pas vain dans le Seigneur. Parce qu'il y a une stabilité, il y a une cohérence. Et je crois que si l'on observe le traitement que Jésus et les apôtres ont donné au texte de l'Ancien Testament, on verra que c'est exactement celui que j'ai essayé de définir. C'est par l'Écriture seule qu'ils l'ont déterminé. une écriture considérée comme ayant totale autorité. Non, mais sur cela, nous reviendrons en principe demain.